Bonjour à tous. Le Seigneur est là. Ça me fait du bien. Ça me donne du courage et des forces. Comment allez-vous? Ça va? Êtes-vous prêt à aller faire de la montagne aujourd'hui? On était dans le désert dimanche dernier. Et aujourd'hui, on va aller à la montagne. Vous me direz qu'il n'y a rien d'extraordinaire à cela pour une Suissesse. Hein? On va lire dans Marc, l'évangile de Marc, au chapitre 9. Il paraît que je ne parle jamais très fort, donc il faut que je parle au moins dans le micro. Et ça fait drôle. On va lire Marc 9, les chapitres, les versets 2 jusqu'à 29. C'est un petit peu long, mais on ne peut pas dissocier ces deux parties, ces deux événements qui se sont produits, parce qu'en fait, c'en n'est qu'un seul. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, s'entretenant avec Jésus. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Car il ne savait que dire, l'effroi les ayant saisis. Une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt les disciples regardèrent tout autour, et ils ne virent que Jésus seul avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Ils retinrent ces paroles, se demandèrent entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Les disciples lui firent cette question : pourquoi les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne premièrement ? Il leur répondit : Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Et pourquoi est-il écrit du Fils de l'homme qu'il doit souffrir beaucoup et être méprisé? Mais je vous dis qu'Élie est venu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, selon qu'il est écrit de lui. » Souvent on s'arrête ici, mais on va continuer notre route. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda : « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit : « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'ils le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Race incrédule, leur dit Jésus, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi, et on le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père : « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. « Mais si tu peux quelque chose, viens au secours et compassion de nous. » Jésus lui dit : « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria : « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet, sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever, et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Voilà, c'est un long texte. Et on va essayer aujourd'hui de comprendre certaines choses. Comme toujours, on ne comprend pas toujours tout. Mais le Seigneur éclaire un peu, des fois, le chemin sur notre route pour mieux comprendre des textes. Pour moi, en tout cas, c'est des textes qui m'ont posé beaucoup d'interrogations. Et on va essayer d'avancer un petit peu plus loin aujourd'hui avec cela. Dans cette première partie dite de la transfiguration, on peut peut-être tirer déjà deux pensées. C'est que Jésus a choisi trois de ses disciples pour monter sur la montagne, pour prier, nous dit Luc. J'imagine qu'il y a eu plusieurs heures de marche. Et arrivé en haut, Jésus installe ses disciples exténués et il nous est mentionné qu'ils se sont quasiment endormis tellement ils étaient fatigués. Pour ceux qui ont fait des randonnées longues, je pense qu'ils savent ce que ça veut dire. Et ensuite, il se passe un événement extraordinaire, unique, qui est la transfiguration. Les disciples voient Moïse et Élie. On a pour habitude de dire que c'est en fait toute la loi et les prophètes, toute cette partie de l'Ancien Testament qui couvre toutes les dimensions de la parole de Dieu. Et en fait, Luc nous dit qu'ils parlaient ensemble de ce qui allait arriver à Jésus et de son départ. C'est-à-dire qu'ensemble, les trois, ils parlaient de cette crucifixion qui allait arriver, de cette résurrection et de ce départ de la terre de Jésus pour retourner à la droite de son Père. Alors que tirer de ces choses qui sont extraordinaires et uniques? Il m'a semblé intéressant en tout cas de signaler, de souligner que Jésus n'a pas choisi tous ses disciples. Pourquoi n'a-t-il pris que trois? Certainement, il a choisi ceux qui lui étaient les plus proches. Jésus aurait-il des chouchous? Est-ce que ceux qui sont restés en bas ont dit « Pourquoi pas nous ?» Je crois que Jésus veut nous enseigner un modèle dans nos relations sociales dans un groupe qui est intéressant. Si nous les imaginons en cercle concentrique avec le Seigneur ou avec nous au centre, à la lecture des évangiles, nous pouvons constater que l'apôtre Jean était certainement le plus proche de Jésus. Il se dit de lui-même « celui que Jésus aimait ». Jésus avait une affection toute particulière pour Jean. On peut dire après que Pierre et Jacques étaient aussi ses plus proches. On entend tout le temps Pierre, Jacques et Jean. Et puis après, il y a les autres, les 9 autres disciples, dans un cercle un petit peu plus élargi. Et après, probablement les 70, puisque nous savions qu'il y avait 70 personnes qui suivaient Jésus. Et après, la foule. Jésus n'avait pas de préférence. Il ne voulait pas créer des différences engendrant des jalousies ou des clans. Mais tout simplement, dans son humanité, il avait des affinités. Et nous, nous sommes la même chose, de la même nature. Il y a des personnes vers qui nous nous sentons plus attirés que d'autres. Nous ne les aimons pas plus, mais certainement différemment. Notre capacité relationnelle va aussi dans ce sens, parce que nous ne pourrions pas être intimes avec tout le monde. Le Seigneur nous permet d'avoir, nous aussi, quelque part, nos cercles concentriques de plus en plus larges, qui nous permettent d'être très proches d'une, deux ou trois personnes, un petit peu plus et encore plus. Et ça ne veut pas dire que nos relations sociales génèrent des différences ou des clans. C'est tout simplement des affinités, une qualité que Dieu nous a donnée. Et cela peut être aussi une aide dans nos relations dans l'Église. Je crois qu'il faut être vigilant de ne pas imaginer des choses qui ne sont pas. Je crois que nous avons cette possibilité de trouver quelques personnes de qui nous sommes proches, voire très proches, intimes, et d'autres personnes qui nous sont plus, pas éloignées, mais avec qui on a une relation un peu différente. Et tout ça est quelque chose de normal. Et il me semble, en tout cas, dans cet exemple, que Jésus nous donne un bon modèle et qu'il est bon de se souvenir que ces choses-là ne sont pas là pour nous diviser, pour nous séparer ou pour imaginer, oui, des choses qui ne sont pas et qui ne devraient pas être. Ça, c'était la première partie qui me paraissait intéressante dans ce choix de Jésus, de ses disciples. Le deuxième point, il a choisi ses trois amis les plus proches pour vivre cette expérience exceptionnelle. Oh, il ne les a pas invités pour faire juste une randonnée, mais pour vivre quelque chose d'unique. En fait, il a levé le voile sur le monde spirituel. Jésus-Christ a levé un voile pour leur révéler que ceux qui sont croyants sont vivants après. Ça nous rappelle ce que les anges disaient aux femmes au tombeau : ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Si nous croyons au Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle, tout comme Moïse et Élie. Et c'est un événement exceptionnel parce que nous ne sommes pas appelés à vivre ce type d'événement naturellement. Le Seigneur nous demande de marcher par la foi et pas par la vue. S'il nous donnait de vivre en permanence des expériences comme ça, on ne vivrait plus par la foi, par cette confiance au Fils de Dieu et à la parole. Mais on attendrait chaque instant de vivre des événements comme ça. Ce qui veut dire que cela peut se produire, mais que ça n'est pas la règle générale. Dans ce temps de transfiguration, Jésus parle de sa mort et de sa résurrection, puis le voile retombe et le Père annonce : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Cela me rappelle le Shema Israël. Écoute Israël. Et j'ai beaucoup aimé la prière de Laurent ce matin qui parlait de ce temps de la vie de Jésus et tout particulièrement de sa mort et de sa résurrection, où on bascule dans un autre temps. Nous sommes là aussi prophétiquement dans une bascule entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Moïse était aussi monté sur la montagne pour recevoir la loi. Dans notre situation présente, Jésus monte aussi sur la montagne pour signifier qu'il est venu non pas pour abolir la loi, puisqu'il parle avec Moïse et Élie, mais pour l'accomplir, puisqu'il parle ensemble de sa crucifixion et de sa résurrection. La nouvelle alliance consiste non pas à suivre la loi de Moïse et d'Élie, mais à écouter le Fils bien-aimé de Dieu. Et tant que Jésus ne reviendra pas à Jérusalem, nous avons à l'écouter lui, à écouter sa parole, à écouter sa vie, à écouter son témoignage et à se laisser imprégner et à obéir à ces choses qu'il va nous dire. Voilà, c'était un peu mes réflexions sur cette première partie de la Transfiguration. Et je voulais passer à la deuxième partie. Après un temps de gloire sur la montagne, tout comme Moïse, Jésus redescend de la montagne avec ses trois disciples, qui, il faut bien dire, n'ont pas compris grand-chose à ce qu'il se passait. Attendu qu'il voulait faire du camping et rester hors du temps et du monde. Et Jésus, tout comme Moïse, retrouve la plaine. Et il retrouve aussi une situation bien compliquée. Moïse avait retrouvé un peuple ayant érigé une idole dans le veau d'or. Et là, nous voyons Jésus confronté non pas à une même idole, mais au résultat terrifiant de ce culte idolâtre. Un enfant innocent qui vit des tourments terribles et d'un père désespéré, des disciples qui font le constat de leur échec. Il ne nous est pas précisé à ce moment-là pourquoi les portes ont été ouvertes dans la vie de cet enfant. Jésus ne nous a jamais donné d'informations là-dessus. Et s'il ne le fait pas, c'est en tout cas dans cette situation-là pas nécessaire de le savoir. Et là, la parole de Jésus est terrible. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de peine à l'entendre et à la recevoir. « Race incrédule, dit Jésus. » Et dans d'autres évangiles, on dit même « race incrédule et perverse. » Waouh ! Quelle dureté ! Le mot grec pour pervers, c'est tordu, rebelle. Et pour ce qui est du mot race, on peut dire une espèce, une famille, un peuple. Que de similitudes avec Moïse, dont on sait qu'il a cassé les tables de la loi quand il a vu son peuple dans cet état-là. Mais aussi quelle dureté, voire de la colère dans les paroles de Jésus. S'il était ici ce matin, pourrions-nous entendre un tel jugement? Nous qui voyons Jésus si doux, si tendre, si respectueux, et il l'est. Comment peut-il dire cela à des personnes qui, somme toute, n'ont pas l'air de comprendre grand-chose malgré leur bonne volonté? Un peu comme les trois collègues précédents. Alors que veut donc nous faire comprendre Jésus? Dans un premier temps, je crois que nous devons bien reconnaître ce terrible diagnostic sur notre humanité. Sommes-nous si différents que ses disciples, ou de ce peuple, ou de cette race? Nous sommes et demeurerons des pécheurs, sauvés par grâce, et tant de fois incrédules, tordus, rebelles, pervers. Ayant besoin désespérément du secours du Saint-Esprit pour écouter Jésus et mettre en pratique ce qu'il nous demande. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Mais Jésus voulait aussi nous enseigner autre chose. Nous avons vu dans le moment de la Transfiguration qu'il a levé le voile sur le monde invisible, spirituel. Et là, il nous enseigne l'autre versant de ce monde-là, comme un contraste entre ces deux mondes, entre celui que les disciples ont vu à la transfiguration est la réalité de celui-là. Quelqu'un disait, la Bible n'est pas un précis d'occultisme. Et c'est vrai. Je pense que J.K. Rowling dans Harry Potter le fait tellement mieux. La Bible, par contre, nous offre tout ce dont nous avons besoin de connaître avec l'aide du Saint-Esprit. Je voudrais d'abord faire une remarque. Lorsque nous abordons un tel sujet, il faut veiller à quelque chose. C'est un peu la même chose lorsqu'on étudie la médecine ou la psychologie. Dans un premier temps, il nous semble qu'on a toutes les maladies. La moindre rougeur et nous sommes atteints de toutes les pathologies. Même des pires choses. Et on s'affole. Et là, c'est pareil. Quand on entend parler de ce monde-là, on se dit « Oh là là, il y a ça, il y a ça, il y a ça !» Donc, ne nous identifions pas forcément à tout ce que nous lisons ou nous entendons. Si nous avons besoin dans ce domaine, le Saint-Esprit, la parole de Dieu, sauront nous le dire d'une façon très précise. Il n'y a pas lieu d'avoir peur ou de s'inquiéter ou de s'affoler. Les trois évangiles, puisque ce récit se trouve dans les trois évangiles, nous parlent de esprit, sourd et muet, impur ou de démon. Alors, pourquoi les disciples n'ont pas pu le chasser, eux qui avaient vécu tant de résultats lorsque Jésus les avait envoyés deux par deux? Souvenez-vous, ils sont revenus, mais ils dansaient de joie. Même les démons nous étaient soumis. Et Jésus leur dit, oui, je voyais ce monde-là s'écrouler. Et là, néant. Jésus nous donne une explication à la fin, au travers du mot « cette sorte ». En grec, on pourrait aussi dire cette espèce, donc cette famille ou cette race. Une sorte de race humaine, nous faisons comprendre que nous sommes en présence de ce qu'on appelle un esprit humain. L'esprit d'un homme ou d'une femme sorcier qui prend plaisir à tourmenter cette famille et cet enfant. L'esprit d'un tel homme entre dans l'esprit de cet enfant, puis dans son âme, puis dans son corps, pour lui faire faire n'importe quoi. Mais cela ne peut se faire qu'avec le support d'un esprit qui est un démon. Et pour mieux comprendre cela, une image est fréquemment utilisée dans les contes de fées, qui nous l'explique mieux. C'est la sorcière volant sur son bâton. C'est tout simplement ça. Voilà pourquoi les mots utilisés dans les trois évangiles ne se contredisent pas. Ils sont logiques et justes, et on apprend là quelque chose de ce monde tout en gardant l'œil fixé sur Jésus-Christ. C'est ce que je trouve d'extraordinaire dans la Bible. C'est que Jésus peut nous apprendre tellement de choses sans en faire la gloire de l'ennemi. Et c'est ça qui est merveilleux. Et en fait, la difficulté que les disciples ont eue à chasser cette chose-là, cette race, cette sorte, cette entité, c'est que autant les démons, les mauvais esprits, sont soumis à l'autorité du nom de Jésus-Christ et de la personne, parce qu'ils connaissent la gloire de Jésus. Ils savent très bien qui est Jésus-Christ et ils le craignent. Quelqu'un qui pratique l'occultisme jusqu'à cet extrême de la sorcellerie ne craint pas Jésus-Christ. C'est quelque chose de très particulier et qu'il faut savoir. Et c'est pour ça que c'est différent et plus difficile. C'est quelque chose de très particulier que de découvrir cela, mais c'est aussi quelque chose de très utile dans nos vies et dans la vie de l'Église, de savoir ces choses-là. Je crois que le Seigneur nous apprend à grandir aussi, à connaître. Je crois que nous vivons dans un temps où ces choses grandissent, fleurissent dans le monde. Et je crois que l'Église doit aussi être informée. Je ne dis pas que tout le monde est appelé à vivre ces choses-là, mais je crois que d'être informé et d'être sensible à ce que l'Esprit nous dit peut nous aider dans nos relations avec des personnes parfois. Et c'est utile de savoir et de pouvoir comprendre ces choses-là. C'est arrivé ici dans l'Église que je me trouve en face de quelqu'un et tout d'un coup, je savais que je n'étais pas que en face de la personne. Cette personne n'est plus jamais revenue dans l'Église parce que je suis convaincue que cette personne, quand elle était ici, faisait autre chose que chanter des louanges avec nous. C'est une réalité et je crois que c'est important aussi pour être sentinelle dans l'Église, d'être sensible à ces choses et de pouvoir y grandir aussi. Et je voudrais aussi, avant de poursuivre, faire une parenthèse sur quelque chose qui est très en vogue aujourd'hui, très à la mode, et qui s'appuie sur ce même principe. Il s'agit de l'hypnose. Appelons un chat un chat. Nous sommes en face du même principe. L'esprit de l'hypnotiseur, accompagné d'un démon, captive l'esprit, l'âme et le corps de la personne qui lui fait confiance, pour lui faire faire n'importe quoi, pour le manipuler, pour en prendre le contrôle. Je ne sais pas si vous avez regardé une soirée télévisée avec Arthur il y a 10 jours, on a regardé juste le début, et il est un type très connu, il est capable de faire faire aux gens, mais tout et n'importe quoi. Même des choses qui humilient la personne quand elle se réveille. C'est ignoble. Moi, ça me révolte. Et à un moment donné, c'était au début, on a regardé juste quelques minutes, et à un moment donné, ils se sont adressés aux téléspectateurs, c'est-à-dire aux gens qui étaient derrière leur télévision. Nous, on était dans un mariage il n'y a pas longtemps, et comme animation entre la fin de la célébration et le repas de mariage, il y a eu un hypnotiseur qui était là. Nous, on était allés se reposer dans notre chambre, on est revenus, et j'ai vu une dame assise dehors qui était mal. Moi, comme infirmière, je dis, je vais aller voir, elle a dû faire un malaise. Et c'est là que j'ai appris qu'il y avait cet individu qui était là. J'ai mis du temps à décolérer. Il a fallu que mes enfants me... Mais on a vu des gens qui étaient mal. Mais mal! Parce que l'esprit sorcier de cet homme est allé à l'intérieur des gens, dans leur subconscient, dans leur inconscient, et il a même pas mis en lumière. Mais il a... touillé, je ne sais pas comment on pourrait dire, brasser des choses qui ont mis à mal ces gens, mais sans leur dire ce que c'était, sans leur dire pourquoi elles étaient si mal. Bon, je vais me calmer, parce que ça me... J'ai marqué « Ne nous y trompons pas, cela n'est ni un jeu, ni une thérapie. » Aujourd'hui, dans tous les espaces où moi je suis allée pour être soignée, on m'a proposé de l'hypnose. Partout. Même aujourd'hui, il y a de la chirurgie sous hypnose. Alors, en tant que chrétien, qu'allons-nous faire ? Je crois qu'il est bon d'être informé. Je crois que là aussi, savoir, connaître, moi je dis toujours, chacun est libre de faire ses propres choix. Mais qu'on les fasse en vérité, que l'on sache où on met les pieds. La différence avec cet enfant que l'esprit sorcier prenait pour le détruire, le faire mourir d'une manière tellement perverse, parce qu'il aurait pu le faire mourir comme ça, mais non, il fallait le faire souffrir. La seule différence, c'est que là, pour l'instant, comme dans tout ce qui touche les pratiques ésotériques et les pratiques de médecine douce que l'on a aujourd'hui, c'est pas dans cet objectif-là, dans un premier temps. Mais c'est de nous faire croire que cela va nous guérir, ou que cela va nous révéler des choses cachées, ou que cela va nous énergiser. Voyez-vous, le Seigneur, il peut nous guérir. Et même si on n'est pas guéri, parce que moi-même, je ne suis pas guérie aujourd'hui, je crois que Dieu le permet, mais il restera mon Dieu et mon Seigneur. Je crois aussi que si Dieu a des choses cachées, des secrets de famille, le Saint-Esprit peut le faire. Et je pourrais passer une heure à vous donner mon témoignage sur ce sujet-là. De choses que Dieu a mis en lumière, que des sorciers ont voulu croire qu'ils pourraient cacher. Mais Dieu sait tout, il peut tout. Et quand c'est l'Esprit Saint qui le fait dans la douceur. Il le fait dans le respect. Il le fait en estimant ma capacité à supporter ce que je vois. Et il me guérit complètement et totalement. Et je ne vous mens pas, c'est mon témoignage. Voyez-vous, Satan ne fait rien, jamais, de gratuit. Les gens qui s'ouvrent à ces choses-là, non seulement ils ouvrent la porte, on chantait un chant ce matin, « Ouvrez les portes », mais à qui ? À Jésus. Si on ouvre les portes à Satan, alors il y a des choses qui vont se passer dans la vie de cette personne sur plusieurs générations. Et des gens au bout de la deuxième, troisième génération viendront dire « Mais il se passe tout ça dans ma vie, c'est affreux, Dieu est injuste, Dieu n'est pas bon. » Mais si on savait que les portes ouvertes ont été ouvertes chez les grands-parents, les arrière-grands-parents, et que les gens traînent ça sur des générations. Mais gloire à Dieu, il n'y a que Jésus-Christ qui peut briser ces malédictions, et comme il l'a fait pour cet enfant, qui peut fermer les portes et dire maintenant ça suffit, c'est terminé. Le seul qui a le droit de venir habiter en moi, c'est Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Premièrement, parce qu'il est mon Créateur. Deuxièmement, parce qu'il m'a racheté au prix de sa vie. Et il n'abusera jamais de ce droit. Il demandera toujours mon autorisation. Michel lisait ce texte d'Apocalypse. « Je frappe à ta porte, si tu ouvres. » Ça nous rappelle ce tableau à Londres, dans je ne sais quelle église, où on voit une porte avec Jésus d'un côté, un individu de l'autre, et il n'y a qu'une seule clenche. La clenche n'est pas du côté de Jésus. La clenche, elle est du côté de la personne. Jésus n'a pas la clenche pour ouvrir mon cœur. C'est moi et moi seul qui décide. Mais quand je l'ouvre, il vient habiter en moi. Il vient souper avec moi, c'est-à-dire avoir du partage intime avec moi. Il ne me trompera jamais, il ne me trahira jamais, il ne me fera jamais de mal, et tout cela parce que lui, il m'aime. Alors je crois qu'il faut vraiment qu'on soit vigilants, nous, en Europe. Nous sommes tellement matérialistes, tellement naïfs sur toutes ces choses-là, tellement révoltés en France contre le fait religieux, mais le fait religieux n'est qu'un aspect de ce fait spirituel. Que personne ne se rend compte que de ce qui est de la spiritualité, on ne le voit pas et on ne l'admet pas et on plonge naïvement dans ces choses. Et personnellement, ça a été mon cas aussi, mais voilà, le Seigneur nous apprend des choses au travers de nos parcours de vie. Nos parcours de vie, quels qu'ils soient, sont là pour nous aider à vivre et à comprendre ces choses et pour pouvoir les transmettre. Je ne pourrais pas parler de ces choses-là si je ne les avais pas moi-même expérimentées et découvertes, si je n'avais pas été obligée à cause de mon passé, de mon parcours de vie. Et je rends grâce à Dieu, oui, ça a été difficile, mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il a fait des merveilles. Je ne dis pas que tout est encore résolu, mais il a fait des merveilles pour moi. Et c'est vrai que longtemps, je me suis dit, pourquoi, Seigneur, tu m'obliges à creuser dans ce monde-là? Je n'y ai jamais touché, je n'y connais rien, je ne sais pas de quoi il retourne. Mais aujourd'hui, je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a appris tellement de choses. Et surtout, il m'a appris à découvrir qui est Dieu, qui est Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Une dimension de sa victoire à la croix, c'est une vraie réalité. Et je crois que c'est de ça que Jésus parlait avec Moïse et Élie. Je ne sais pas combien de temps ils ont parlé avec Moïse et Élie. Ils ont peut-être eu un temps très court. Peut-être qu'ils ont le temps dans l'éternité. Il n'existe pas, donc on ne sait pas combien de temps ils ont causé. Mais voilà, c'était en tout cas ces choses-là que je voulais partager. Et puis, une dernière chose pour clore ce chapitre, on va lire dans Matthieu 17, 19 à 21, c'est le même événement. Catherine, si tu veux mettre Matthieu 17, 19 à 21. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon ?»« C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne « Transporte-toi d'ici là !» Et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. En fait, nous trouvons là une des raisons, entre autres, de cet échec. Cette foi engendrant l'impossible, engendrant l'autorité pour l'impossible. Cette foi acquise dans la prière, voire le jeûne pour déplacer les montagnes. Il est aussi question de montagne dans ces quelques versets. Non plus pour les monter, non plus pour les descendre, mais pour les déplacer. Apprendre à monter sur la montagne pour que notre foi au Christ ressuscité des morts, vivant parmi les vivants, puisse vaincre les sortes ou races incrédule et perverse conduisant à la mort. C'est peut-être entre autres de cela que discutaient Jésus, Moïse et Élie. Nous n'avons pas plus de détails. En réalité, que ce soit nos trois disciples qui devaient découvrir sur la montagne une dimension prophétique, que ce soit les disciples restés en bas qui devaient discerner les esprits, ou d'autres qui devaient avoir ce don de foi, dans tous ces domaines, le Seigneur nous place devant notre humanité, criant comme le père de cet enfant, « Viens au secours de notre foi ». Et je crois que ces événements sont là pour nous encourager encore et encore à grandir dans ces choses, parce qu'elles rendent gloire à Jésus, elles rendent gloire à notre Dieu, et elles rendent gloire dans un monde aujourd'hui qui a besoin de voir la vérité, de voir un Christ vivant, ressuscité des morts, et capable de dépouiller ces choses-là et de les vaincre. Que le Seigneur puisse nous encourager en tant qu'Église à grandir. Je crois que ce n'est pas un hasard si le Seigneur met en lumière l'humanité de ses disciples, parce que nous sommes de la même espèce, de la même race. Et quand on voit ce qu'ils ont fait après, il y a de quoi nous encourager à ne pas baisser les bras, mais à persévérer, à continuer pour que des gens soient libérés, délivrés et puissent avoir la révélation de Jésus-Christ sur leur montagne personnelle. Amen.